Le thème que je présente en ce moment porte sur risque climatique et réactivité des populations urbaines vulnérabilisées de la ville d'Abidjan, la montée des eaux de la mer à Gonzagueville. Cette présentation se fera selon le plan suivant. En premier point, nous aurons l'introduction. Ensuite, dans un grand point, ce sera Gonzagueville et la montée de la mer. En deuxième point, la réactivité des victimes. En troisième point, la perception. Et enfin, la conclusion. Comme il est démontré dans la littérature sur le changement climatique partout dans le monde, l'Afrique reste le continent le plus vulnérable et le plus exposé à ses effets négatifs. L'Afrique reste le lieu, d'ailleurs, même malgré son exposition aux effets négatifs du changement climatique, l'Afrique est le lieu où l'urbanisation est très rapide, où l'urbanisation est la plus rapide au monde. Un rapport de l'ONU indique que 40% du milliard d'habitants que compte l'Afrique, il y a 60% qui vivent dans les villes et dans les bidonvilles. La conséquence de l'urbanisation croissance de l'Afrique, c'est éventuellement les problèmes d'assainissement, le problème d'accès à l'eau salubre et surtout l'exposition aux effets du changement climatique, élévation des eaux des mers et inondations côtières. Concernant l'élévation des eaux de la mer, il faut dire que les activités humaines, comme le démontre la littérature, les activités humaines ont contribué à l'élévation de la température terrestre et marine, entraînant l'accélération de la fonte des glaciers, entraînant l'élévation du niveau de la mer. Or, les villes portuaires des littoraux restent les plus exposées aux événements extrêmes maritimes. Emmanuel Garnier le démontre bien dans son article sur l'histoire des tempêtes. En effet, Garnier démontre que l'urbanisation des littoraux est un risque encouru par les populations qui s'y installent. Aujourd'hui, Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire et Abidjan est une ville portuaire située sur le littoral. Mais dans le même temps, c'est une ville avec une démographie galopante. De petits villages ébriés que Abidjan était dans les années 1900, Abidjan représente aujourd'hui le symbole de l'urbanisation rapide en Côte d'Ivoire. Sa population est rapidement passée en une vingtaine d'années de 120 000 habitants lors du premier recensement général de la population en 1975 à près de 2 millions d'habitants selon le dernier recensement général de la population qui a eu lieu en 1998, soit 40% de la population urbaine ivoirienne. Selon le site du district d'Abidjan, cette population est aujourd'hui estimée à 4 millions d'habitants. Cette population galopante Abidjan s'est faite en deux principales phases. La première phase concerne la période du miracle ivoirien. En fait, il faut relever qu'après les indépendances en Côte d'Ivoire, jusqu'aux années 90, la Côte d'Ivoire a connu une période de croissance économique sous le règne d'Oufou Boigny. Ainsi, grâce à l'exportation du cacao et du café, la Côte d'Ivoire a acquis des revenus importants qui lui ont permis de se développer un tant soit peu. Jusqu'à aujourd'hui, le cacao représente encore le principal produit d'exportation de la Côte d'Ivoire. La deuxième phase de la démographie galopante en Côte d'Ivoire, ce sont les deux principales crises qu'a connues la Côte d'Ivoire, celle de 2002 et celle de 2010. Celle de 2002 concerne la guerre qui a contribué à la division de la Côte d'Ivoire en deux. Contrairement à ce qui s'est passé ici dans les années 1944 avec la résistance, en Côte d'Ivoire, l'attaque de la rébellion a contribué à faire fuir la population des zones que cette rébellion occupait. C'est ainsi qu'on a vu des populations marchant à pied, en voiture, se débrouillant pour fuir ces zones et où elles se dirigent. Vers Abidjan, la capitale, qui était plus sécurisée. C'est ainsi qu'à cette époque, on a connu les termes comme DG, qui normalement dans la littérature signifie directeur général. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, non, le DG n'était pas un directeur général, c'était plutôt un déplacé de guerre. Ensuite, on a connu la période de la crise post-électorale. Après les élections de 2010, l'ancien président ne voulant pas céder le fauteuil présidentiel. On a connu une crise post-électorale qui s'est dénouée en avril 2011 par l'arrestation de ce dernier et la prise du pouvoir par Alassane Ouattara. Mais au cours de cette crise, les populations encore se sont déplacées parce que les corps habillés, ce qu'on appelle corps habillés chez nous, ce sont généralement les gendarmes, les policiers et les militaires qui, au lieu de défendre, rester dans leurs différentes zones pour défendre le pouvoir en place, ont plutôt fui avec leurs familles pour se diriger encore vers Abidjan, contribuant à augmenter la population abidjanaise. Toutes ces populations, généralement pauvres, affectionnent les bidonvilles et quartiers précaires où elles occupent irrégulièrement et de façon informelle des terrains vacants situés dans des communes telles que Port-Boué sur le littoral. Il faut dire que généralement, les gens qui fuient la guerre, qui arrivent à Abidjan, ne s'installent pas dans les quartiers IP comme Cocody, ni Deux Plateaux, ni au Plateau. Ils choisissent de s'installer dans les quartiers précaires, notamment à Port-Boué, qui est un quartier Port-Boué, qui est une des communes d'Abidjan, une des 13 communes d'Abidjan, qui est située également sur le littoral. Donc c'est ce quartier d'ailleurs même qui fait que Abidjan est proche du littoral, qu'on dit qu'Abidjan est sur le littoral. En s'installant sur les littoraux, sur le littoral abidjanais, les populations qui s'installent prennent des risques et mettent leur vie en danger, aggravant dès lors leur vulnérabilité au risque climatique. Gonzacville, dont il est question ici, est un quartier de la commune de Port-Boué. Comme je l'ai dit, qui est l'une des 10 communes de la ville, du district d'Abidjan, devenu district depuis lors. Gonzacville s'étend tout le long du littoral et doit son peuplement à la création du premier port de la Côte d'Ivoire en 1950. Avec le port, on assiste à la multiplication des usines et des entrepôts à Vridi, autre quartier de la commune de Port-Boué. Port-Boué devient alors la principale zone d'emploi d'Abidjan. Les travailleurs qui s'installent, qui arrivent à Abidjan travailler dans les usines sur le port, s'installent généralement dans les quartiers proches de leur lieu de travail. Et le quartier le plus proche de leur lieu de travail, c'est le quartier sur le littoral, notamment Gonzacville, où, de façon générale, on a accès facilement au terrain. Mais il faut relever qu'au départ, quand les populations s'installaient dans ces zones, elles avaient l'autorisation des autorités. On leur donnait l'autorisation d'installer, mais en respectant un domaine public maritime. Mais avec l'avancée de la mer et la démographie croissante, les populations, les maisons des populations se sont rapprochées de la mer. Et c'est alors que se produit en août 2001 la montée des eaux de la mer à Gonzacville. Pendant 3 jours, sur ces consécutifs, les vagues sont montées jusqu'à une hauteur de 2 mètres. C'était les 24, 25 et 26 août 2011. Dans la population, certains ont même dit qu'elles n'avaient jamais vu une telle montée de la mer depuis qu'elles habitent Abidjan. Et dans la presse, on a vu des qualificatifs tels que la colère de la mer, le littoral en danger, la colère de Dieu sur la Côte d'Ivoire. La mer est en colère parce que les hommes ne la respectent pas. Il faut rappeler que ces titres sont évocateurs de l'arrivée au pouvoir du nouveau régime. On se souvient que en août 2011, cela faisait 3 à 4 mois que le nouveau régime venait de s'installer, le 18 avril 2011. Les dégâts causés pendant cette montée de la mer étaient énormes. Près de 187 habitations détruites et 1040 familles sans toit. On a assisté à la réduction de l'épaisseur des plages et du littoral, les ateliers et les hangars des populations détruites et des cocotiers déterrés. Dans le même moment, à Grand Bassam, qui est une autre ville proche d'Abidjan, à quelques 15 km d'Abidjan, cet événement aussi se produisait sur les plages. Également à Grand Bassam, les propriétaires d'hôtels se sont installés, ont installé leurs hôtels aux abords des plages, notamment dans le quartier IP de Franceville. Franceville, qui est un quartier touristique. Pendant la montée des eaux, les 24, 25 et 26 août 2011, ce qui a le plus marqué les populations, même s'il n'y a pas eu de mort d'homme, c'est leur impuissance face à la mer qui emportait leur matériel, notamment les ustensiles de cuisine et les appareils électroménagers. Et à Grand Bassam, la mer a réussi à détruire des clôtures de protection pourtant solidement construites dans le quartier de Franceville. D'ailleurs, à cette occasion, le maire avait demandé le classement de Franceville comme zone sinistrée. À Gonzagueville, comme à Grand Bassam, on est bien là dans le cadre d'un événement extrême. Comme l'a bien montré Garnier au cours de sa conférence prononcée en janvier dernier à l'Université Paris-Sorbonne, les événements extrêmes concernent les sociétés et sont créateurs de vulnérabilité dans les sociétés. Et comme il le demande d'ailleurs dans son article sur l'histoire des tempêtes, face aux inondations, les populations ont une capacité de réaction locale qui leur permet de se résilier. Et c'est cette résilience locale que nous avons nommée leur réactivité. Cette réactivité a été mise en œuvre dans le cas de Gonzagueville. Mais avant de parler de la réactivité des populations à Gonzagueville, il faut revenir un peu sur les deux thèmes principaux en vogue aujourd'hui dans la lutte contre les effets du changement climatique. Il s'agit de l'atténuation et de l'adaptation. Alors que l'atténuation consiste en des mesures visant la limitation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, l'adaptation est un processus long et onéreux visant des solutions durables, d'où une planification et une bonne dose de volonté politique. Mais alors, que font les victimes des événements extrêmes avant la mise en œuvre de grands moyens d'adaptation, surtout avant toute intervention extérieure? Eh bien, elles réagissent dans l'urgence. Et cette réactivité représente un autre et troisième moyen d'adaptation. Cette réactivité consiste à trouver spontanément des solutions aux éléments extrêmes subis. Au niveau de Gonzagueville, qu'est-ce que les victimes ont dû faire? À Gonzagueville, cette réactivité s'est opérée en plusieurs stratégies de résilience. La première fut de trouver des endroits plus sécurisés pour fuir les vagues. Ensuite, on a assisté à la mise en branle du capital social communautaire, qui consiste à mettre en place des stratégies de lutte collective ou alors une stratégie pour mener ensemble des actions collectives. Et celle-ci s'est déclinée en trois étapes. D'abord, la construction d'abris de fortune pour loger les femmes et les enfants qui sont considérés comme les plus vulnérables. Ensuite, l'action de la solidarité africaine par l'hébergement des victimes chez des tuteurs, parents ou amis. Ensuite, les victimes se sont organisées. Elles ont mis en place une organisation des victimes de la montée des eaux de Gonzagueville. Cette organisation est dirigée par Madame Grobo Delphine, une des victimes. Concernant cette dame, la présidente des victimes, que nous avons rencontrée d'ailleurs, nous sommes allés voir sa maison. Effectivement, sa maison se trouve très proche de la mer, désormais. Parce que avant, c'était une maison très éloignée de la mer, mais avec l'avancée de la mer, sa maison se trouve très proche de la mer. Elle se trouve donc en danger. C'est seulement après la réactivité des populations victimes de la montée des eaux de la mer, 10 jours pratiquement après, que les autorités réagissent. Et cette réaction des autorités s'est faite dans un premier temps à travers des dons. Ainsi, on a assisté à des dons de vivres du président de la République. En effet, malgré l'existence des structures pour venir en aide aux victimes, chez nous, généralement, c'est le président de la République qui fait des dons. Et les dons, et c'est toujours politique. L'objectif, c'est les prochaines élections qui sont visées. Et ces dons, c'était constitué de 10 cartons de brosses à dents et de dentifrice, 100 cartons de boîtes de tomates, 12 cartons de bouillon, 300 cartons de margarine, 150 cartons de savon, 25 cartons d'huile de palme, 500 sacs de riz de 50 kg, 206 sacs de riz de 25 kg et 600 nattes. La valeur globale de ces dons s'élevait à 20 millions de francs CFA, soit 30 000 euros. Certaines populations ont jugé ces dons dérisoires. Ce sont généralement des gens de la presse proches de l'opposition actuelle. Après les dons du président de la République, on met en place un comité interministériel. Et ce comité interministériel était dirigé par l'actuel président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume, qui entre-temps avait démissionné de son poste de Premier ministre, qui n'avait rien à faire, donc il fallait lui trouver quelque chose à faire. On l'a nommé président de ce conseil interministériel pour trouver des solutions durables contre ce risque de montée de la mer sur le littoral. Et c'est au cours de cette période qu'on apparaît pour la première fois des déguerpissements et des relocalisations des populations en danger au bord de la mer. Dans ce cadre de ce comité interministériel où l'objectif était de réunir tous les experts internationaux, nationaux d'abord et internationaux, pour trouver des solutions durables d'adaptation. Des experts hollandais qu'on dit vivre, avoir toujours connu et vécu avec la mer et la montée des eaux des mers, sont venus sur les lieux pour faire des prospections. Et après ces prospections, après la création du comité interministériel, plus rien n'est fait. C'est alors que ces événements extrêmes sont rentrés peu à peu dans l'oubli. Les populations, étant fatiguées de vivre chez des tuteurs, décident de retourner leurs habitations, malgré le danger. C'est ainsi le cas de trois sinistrés que nous avons rencontrés. Un monsieur Rigobert Miassi, Narcisse Conan et Kwasi Emmanuel. Rigobert Miassi, dans son cas, sa maison a été détruite. Et heureusement pour lui, quand elle a été détruite, la mère lui a fait une faveur en lui gardant une petite portion de la maison habitable. Étant fatigué de vivre chez les tuteurs et dans la promiscuité, il décide de retourner et il rebâtit, il restaure sa maison et il habite. Il habite et il fait venir sa femme et ses enfants qui habitent dans cette petite maison en attendant. Quand je lui ai posé la question de savoir pourquoi il décide de faire venir ses enfants dans ce danger, la raison simple, c'est pour les rapprocher de leur école. Or, en réalité, c'est parce que les gens sont fatigués de rester chez les gens. Ils attendent des solutions de la part de l'État qui ne viennent pas. C'est le cas aussi de Narcisse Conan et de Kwasi Emmanuel, qui sont des travailleurs libéraux qui ont regagné leur maison, qui les ont restaurées et qui ont regagné leur maison et qui les habitent aujourd'hui. Quand elles regagnent leur maison, elles construisent des défenses de fortune contre la montée des eaux des mers. Mais de cette montée de la mer à Gonzagueville, quelle représentation les populations victimes en ont? Quelles sont leurs représentations? À les interroger, deux principales représentations, deux principales perceptions et la catégorisation qu'on peut en faire, c'est que ces perceptions sont faites en fonction de l'appartenance politique qui est fonction de la religion. Selon qu'on est chrétien, pentecôtiste, proche de l'ancien régime au pouvoir, on considère que la montée des eaux de la mer est la conséquence de la colère de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Dieu qui veut purifier la Côte d'Ivoire d'un régime qui est arrivé de façon violente. Ça, c'est la position des chrétiens pentecôtistes proches de l'ancien pouvoir. Et pour les animistes, et encore pour les musulmans proches du régime actuel, ces événements sont l'expression de la colère des génies de la mer. Les génies de la mer sont fâchés, pourquoi? Parce que les hommes ne respectent pas la mer. Ils ne respectent pas la mer, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent les ordures à la mer, ils défèquent sur les plages, même à la mer. Le plus grave, les populations feraient l'amour même sur les plages. D'ailleurs, certains disent que quand les vagues sont montées, elles ont ramené sur les plages des déchets plastiques, tout ça, que les hommes ont jeté à la mer. Donc, on dit que la mer rejette toujours ce qui ne lui plaît pas. En conclusion, nous pouvons dire avec Emmanuel Gagné que la montée des eaux des mers à Gonzagueville est un événement climatique extrême. En effet, les trois principales étapes pour une adaptation, comme relevé par Emmanuel Gagné, ont été respectées. La première étape, c'était l'affolement des populations. On a vu que les populations se sont déplacées, elles se sont regroupées, etc. La deuxième étape, c'était le débat entre les experts. Les experts hollandais sont venus. Et enfin, la dernière étape, c'est celle de la prise des décisions les autorités. Vous voyez, on a créé un arrêté ministériel dans cette situation. Or, dans le cas français dont parle Emmanuel Garnier, les décisions prises à l'époque ont abouti à des solutions efficaces et durables afin d'éviter l'exposition des populations concernées au risque. Malheureusement, dans le cas de la Côte d'Ivoire, aucune solution efficace et durable n'existe encore depuis l'avènement de cet événement il y a déjà 2 ans. Quelle est la raison de ce manque de prise de décision? La raison est tout simple. Les autorités n'auraient pas encore pris conscience de la gravité des événements climatiques extrêmes liés au changement climatique. Ce qui fait que les autorités ivoiriennes traînent encore les pas face aux événements extrêmes. À ce stade de nos propos, nous pouvons interpeller les gouvernants ivoiriens sur le fait que face au changement climatique, on ne devrait pas seulement se limiter à des dons de vivres et à des arrêtés ministériels. Face aux effets du changement climatique, les autorités devaient aller au-delà pour des solutions appropriées et durables face à la menace grandissante du changement climatique. Et cela relève en dernier ressort d'une véritable volonté politique ivoirienne. Je m'arrête là et je vous remercie de votre attention.